annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Iosephum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger.
Bonjour et bienvenue dans notre podcast Ils ont rencontré Benoît XVI. J'ai aujourd'hui la joie d'accueillir l'abbé Iborra. Bonjour monsieur l'abbé, vous êtes
Bonjour Marguerite.
Vicaire de la paroisse Saint-Roch à Paris dans le 1er arrondissement. Mais vous êtes surtout le principal traducteur de Benoît XVI en français. Et je voulais commencer par vous demander si vous aviez rencontré Benoît XVI autrement que par ses textes.
Alors, je l'ai rencontré, figurez-vous, l'une ou l'autre fois à des audiences publiques en emmenant des groupes à Rome. Mais je l'ai rencontré personnellement qu'une seule fois, et à l'époque où il était encore préfet de la doctrine de la foi. Il y avait des séminaristes parisiens qui cherchaient à rencontrer le cardinal Ratzinger. Moi, j'étais à Rome, je ne sais plus pour quelle raison. Et j'avais organisé la rencontre, et puis à la suite d'une messe qu'il avait célébrée au collège Teutonicum à l'intérieur du Vatican, hein, des trois collèges allemands, je crois, de Rome. Et on a eu une petite rencontre. Alors j'avais commencé à me présenter en allemand, et puis il a immédiatement répondu en français.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Oh, je me souviens plus.
D'accord.
Mais je me souviens plus trop, mais il était comme toujours affable et attentif aux gens qui ne connaissaient pas nécessairement. Et c'est toujours très impressionnant de voir quelqu'un d'important prendre du temps pour des gens qui, visiblement, n'en avaient pas. Alors, même si dans ce groupe de séminaristes, depuis, il y a eu un cardinal et deux évêques.
Ah oui, en effet. Et donc, il devait quand même être particulièrement attentif aux séminaristes parce que.
Oui,
ça devait l'intéresser.
Effectivement, je me souviens qu'à Rome, quand j'étais étudiant, il célébrait souvent les ordinations des prêtres, des séminaristes qui étaient étudiants au collège allemand.
Et vous l'avez particulièrement lu, puisque vous l'avez traduit.
Oui, alors je ne suis pas le principal traducteur, parce qu'en fait, il a commencé d'être traduit à partir des années, fin des années 60. Donc il y a eu pas mal de traducteurs, et en fait moi j'ai commencé à traduire parce que on m'a demandé de traduire en français un texte, un livre d'un dominicain anglais qui s'appelait Aidan Nichols, qui a fait un livre qui s'appelle La pensée de Joseph Ratzinger, et ensuite qui a été réédité au moment de l'élection en 2005 avec un chapitre supplémentaire, et donc j'ai traduit ce livre, et j'ai découvert qu'un certain nombre il y a une bibliographie très très bien faite, et j'ai découvert qu'un certain nombre de titres n'avaient pas été traduits en français. En fait, Ratzinger a commencé d'être connu en France au moment de la publication de son Einleitung in das Christentum, qui a été traduit en français par Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Et là, quasiment tous ses écrits ont été traduits, donc du coup, dans les années 70, puis 80, avec le coup de cymbale qui a été Entretien sur la foi, que moi j'avais lu, qui m'a, entre mon cycle de philosophie et mon cycle de théologie, et qui m'a, alors là, c'est vraiment une rencontre, parce que je me suis dit, première fois qu'un haut prélat romain ose dire que tout après le concile n'était pas parfait, et il le dit avec franchise, intelligence, etc. Et après, je me suis dit, tiens, je vais lire ce théologien que je connaissais de nom, simplement. Et alors, donc, en 2005, je me retrouve à traduire Nichols, et je découvre donc qu'un certain nombre de titres n'avaient pas été traduits en français. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai proposé une maison d'édition, hein, Artege, et j'ai traduit, je vous dis un peu dans le désordre, sa thèse de doctorat de théologie sur Saint-Augustin, sur l'ecclésiologie de Saint-Augustin, qui date de 1954, un texte dont j'ai découvert qu'il est vraiment un des fondements de sa pensée. Sa pensée spirituelle et théologique, parce que chez Ratzinger, la théologie s'enracine vraiment dans la foi, dans l'esprit de prière, et qui notamment passe par la liturgie, et comme d'ailleurs chez Augustin. Et puis j'ai traduit aussi une série de conférences qu'il avait faites dans les intercessions du Concile, où il rendait compte en quelque sorte à différents publics, universitaires ou autres, en Allemagne, de l'avancement des travaux du Concile. Les sessions avaient lieu en automne, et le reste du temps, il reprenait ses activités de professeur et tenait donc des conférences. Donc ça, j'ai traduit ça, rassemblé toutes ces conférences en un seul volume. Ça s'appelle « Mon Concile Vatican II », c'est le choix de l'éditeur. Et puis, j'ai traduit aussi un texte de patristique sur Augustin et Origène, sur l'idée de nation. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Sinon, j'ai traduit des petits textes que j'ai rassemblés dans un bouquin que j'ai intitulé « Esprit de la musique ». L'idée, c'était de faire connaître les écrits de Ratzinger et de Benoît XVI, c'est le même personnage, sur la liturgie, en particulier sur la musique. Autrement dit, l'idée que la musique a une importance dans la liturgie et que n'importe quelle musique ne convient pas à la liturgie.
Et quel enseignement vous retiendrez donc de tous ces textes que vous avez lus? Le principal, ce qui vous a le plus marqué?
Alors, il y a plusieurs aspects. Alors, je dirais l'enracinement augustinien. Pour Saint-Augustin était un chercheur solitaire de Dieu à l'origine, et il s'est retrouvé après sa conversion, où d'ailleurs la musique a joué un rôle, et la raison aussi, parce qu'il a cherché chez les manichéens, chez les néoplatoniciens, etc., etc. Et finalement, il a trouvé, grâce à Saint-Ambroise, en particulier à la liturgie célébrée à la cathédrale de Milan. Il raconte qu'il était ému jusqu'aux larmes par les hymnes qui étaient chantés. Il raconte ça dans les Confessions. Et après, donc, il se retrouve à la tête d'un peuple qu'il doit enseigner et défendre. Enseigner, alors ça va être son travail d'exploration de l'Écriture sainte, puisque les écrits des pères, il n'y en avait pas tellement avant. Hein. Son travail d'exploration de l'Écriture sainte dans un esprit de prière. Et puis, ce sera également défendre la communauté contre toutes les ferments de division qui, en Afrique du Nord de cette époque, étaient considérables, notamment le schisme donatiste, etc. Le grand critère de saint Augustin, c'est la communion qui du peuple chrétien, qui se traduit dans l'unité de la liturgie et qui a pour symbole en fait la communion liturgique, la communion eucharistique même. C'est dans l'eucharistie qu'on reconnaît l'unité de l'Église, et c'est dans la communion eucharistique que l'on peut dire que l'on vit de cette charité qui vient de Dieu et qui va irriguer les relations entre les membres de l'Église. C'est la grande question posée par les donatistes, de savoir si on peut communier ou non lorsqu'on est séparé. Et donc, cette idée que Ratzinger trouve dans saint Augustin, dont il dira qu'il a été l'inspirateur profond toute sa pensée, eh bien, on la retrouve dans son travail de théologien, puis ensuite de pasteur. Parce qu'on a toujours tendance à dire « oui, c'est un intellectuel ». Eh bien, je dis « oui, c'est un intellectuel », mais un intellectuel qui était un prêtre et donc qui était un pasteur. Il a vraiment eu cette dimension pastorale dans son enseignement. D'ailleurs, ça se voit au fait qu'il n'a pas une théologie vraiment très personnelle. Il a la théologie de l'Église, en fait. C'est-à-dire, il va essayer, selon les grâces intellectuelles qui lui sont données, de développer, d'actualiser, de prolonger la pensée de l'Église, mais pas en faisant une théologie personnelle. Et ce qu'on lui reprochera d'ailleurs, et ce que lui-même reprochera à un certain nombre de théologiens quand il sera à la doctrine de la foi. Alors donc, tout ce travail qu'il va faire C'est un travail au service de l'unité de la Catholica, l'unité de la grande communion chrétienne, c'est-à-dire ça va être un travail au service du retour à l'unité, on pourrait dire, des chrétiens séparés, et il a posé des jalons dans l'écuménisme avec les orientaux, aussi bien slaves que grecs, et autres, avec le monde luthérien et anglican, hein, rappelant par exemple à Erfurt, je crois bien en 2011, que le luthéranisme actuel allemand ressemble quand même pas mal à une ONG. Il rappelle donc devant les hiérarques de luthériens évangéliques que à Erfurt, la première question que Luther s'est posée, c'est comment puis-je être sauvé? Comment, par la foi, puis-je être sauvé? Donc, ramenons tout au centre, à l'essentiel, en quelque sorte. Hein. Et puis, le travail qu'il a fait aussi avec les Anglicans, le premier pape à faire une visite d'État en Angleterre, béatifiant Newman, qui est on peut dire que Newman, qui s'inscrit d'ailleurs dans la tradition patristique de Saint-Augustin, en l'occurrence, Newman va être aussi un inspirateur de sa pensée avec, là ça jouera donc plus seulement sur la question de l'unité, mais sur la question aussi de la réception du Concile de Vatican II. Parce que la grande idée de Newman, c'est que le dépôt révélé se déploie dans l'histoire, c'est-à-dire dans le temps, mais aussi dans l'espace, au fur et à mesure que des cultures sont touchées par par le christianisme, il se déploie d'une manière organique. Alors, c'est-à-dire peut-être certaines branches vont cesser de se développer, d'autres vont prendre plus d'importance, etc., au fur et à mesure que des questions se posent ou cessent de se poser. Mais il n'y a jamais de régression au sens où on dit, là, on est allé dans une impasse, on retourne en arrière à la bifurcation et on repart dans un autre chemin. Ça va être une position qui va être défendue par une certaine école qui va naître dans les années du Concile et qui va dire jusqu'à présent l'Église s'est trompée il faut repartir sur des bases nouvelles. Donc il y avait une Église préconciliaire, il y aurait une Église post-conciliaire. Benoît XVI, enfin non, Ratzinger dans une conférence de 66 à Bamberg au lendemain du Concile dit qu'il en a assez d'entendre les gens qui citent l'Évangile en disant « on vous a dit que, moi je vous dis que ». Non, et vous savez que l'un des premiers discours importants qu'il fera peu après son élection, en décembre 2005, ça sera précisément de dire que ce qui est produit dans l'Église doit toujours être évalué à l'aune de ce qui est la tradition. Parce que, précisément, il y a toute une école moderne, disons hégélienne, qui considère que la vérité n'est jamais saisissable, l'esprit n'est jamais saisissable, il est toujours en avant, si on peut dire, et dès l'instant qu'un texte est produit, le texte est toujours déjà dépassé, dans la mesure où il est une sorte de pétrification de l'insaisissable. Et donc, par conséquent, Ratzinger ou Benoît XVI dira il faut considérer que le Concile est arrivé à un équilibre, une synthèse dans ces textes, et c'est à partir de ces textes qu'il faut l'interpréter sur le fond de la tradition antérieure. D'autres lui rétorqueront non, parce que les textes sont déjà dépassés et l'esprit du Concile est un esprit insaisissable, donc il est toujours dans le futur, en quelque sorte. Et ça, c'est une vision qui en quelque sorte supprime la révélation. Certes, il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître parfaitement aujourd'hui, que nous connaîtrons plus tard. Il est évident que la vision béatifique nous permettra d'actualiser nos connaissances, mais il n'empêche que Dieu a fait quand même l'effort de se dire dans l'histoire d'un peuple, et au moment favorable, à la plénitude des temps, il a envoyé son Fils qui est sa dernière parole. Comme dit saint Jean de la Croix, Dieu nous a tout dit en son Fils.
Donc c'est l'apport de ce que vous avez retenu de l'enseignement de Benoît XVI. Moi, il y a quelque chose qui me marque dans son enseignement, c'est qu'on parle très peu de la Sainte Vierge Marie. Est-ce que vous pouvez l'expliquer?
Alors, j'ai remarqué ça aussi. Alors, à la fin de toutes les encycliques, il y a un petit paragraphe marial, parce que c'est... alors, il parle effectivement assez peu de la Vierge Marie. Il a même, au moment du Concile, combattu l'idée... Vous savez, au début du Concile, il y avait 70 schémas. On finit seulement à 13. Il y avait un schéma qui devait y être une constitution sur la Vierge Marie. Et les évêques allemands, essentiellement, mais pas que, enfin un certain nombre d'entre eux, d'Europe du Nord, disons, étaient assez opposés à l'idée d'un schéma indépendant sur la Vierge Marie.
Est-ce que vous parlez du dogme de Marie comme
Alors, pas simplement la corédemption ou la médiatrice universelle, mais c'était l'idée, globalement, qui aurait contenu ces idées-là. En fait, ces évêques pensaient... En fait, finalement, c'était probablement plus riche, pensait qu'il fallait resituer la place de la Vierge Marie par rapport à l'Église. Et ça aboutira effectivement à ce que fera Paul VI, c'est-à-dire déclarer Marie mère de l'Église et en somme achever toute la réflexion sur l'Église par le chapitre 8 de Lumen Gentium, si je ne me trompe, qui est le chapitre marial. Alors, si on néanmoins... Ratzinger avait écrit un texte très profond sur la Vierge Marie avec Hans von Balthasar qui s'appelle Marie, première Église. Dans ce petit livre, en fait, il y a vraiment l'idée que Marie est la matrice, l'archétype même de l'Église. Elle est, on peut dire, la nouvelle Ève, l'archétype de celle qui se tient devant le nouvel Adam. Et en fait, c'est une vision théologique très profonde et en même temps très spirituelle qui fait droit à sa piété mariale qui est authentique, hein, puisque sa seule promenade quasiment depuis 10 ans amateur ecclésier, c'est d'aller dans les jardins du Vatican dire son chapelet devant la grotte de Lourdes.
Et d'ailleurs, il habitait à Mater Ecclesiae.
Mater Ecclesiae, oui, c'est tout à fait ça. Oui.
Très bien. Et pour terminer, est-ce que vous auriez une caractéristique de sa personnalité qui vous aurait marqué?
Ah oui. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on regarde, par exemple, les photos, on voit le jeune professeur à l'intelligence pétillante, qui captive des auditoires, etc., etc., qui a un verbe... brillant, et en même temps, le temps passant, on voit quelqu'un qui est de plus en plus intérieur, de plus en plus diaphane, de plus en plus simple, et qui s'exprime toujours avec le même souci de la vérité, la même recherche disons, d'un accord intellectuel, même dans les controverses théologiques ou autres. Et qui a un goût de la vérité, alors qui va se traduire par la fermeté, qui va se traduire aussi par la courtoisie, par la fermeté, donc fermeté, courtoisie, douceur dans l'expression, une voix devenue très douce, et en même temps une limpidité dans l'explication, dans l'exposition de ces thèmes. Je pense par exemple à tous ces grands discours universitaires. Alors, par exemple, lorsqu'il était cardinal, le discours qu'il a tenu à l'Institut de France pour sa réception, le discours qu'il a tenu à Caen pour le 60e anniversaire du débarquement, et puis ensuite, c'est les discours en tant que pape qu'il a fait en septembre en général. Probablement, il devait les travailler pendant l'été. Et puis, lors de ses déplacements internationaux dans des grandes capitales européennes, souvent, eh bien, il va délivrer, on peut dire, une adresse universitaire à des publics à la fois d'intellectuels, de politiques, etc., etc. Par exemple, à Paris au Bernardin, à Berlin au Reichstag, etc., etc. En fait, une chose qui m'a frappé, on pourrait dire, dans le discours des Bernardins, il dit, les moines n'ont fait que chercher Dieu, et comme par surcroît, ils ont produit la culture, la grande culture européenne, aussi bien intellectuelle que technologique. Et on pourrait dire du pape Ratzinger que presque de la même manière, sans chercher à jamais à assumer une fonction dans l'Église, par humilité, eh bien, en fait, il a produit une œuvre considérable. Il n'a jamais cherché à être archevêque, il n'a jamais cherché à être cardinal, préfet, il a même donné sa démission autant de fois qu'il le pouvait à Jean-Paul II. Il n'a surtout pas cherché à être pape. Et cependant, toute la richesse de son enseignement, de son gouvernement, est née de ce surcroît, en quelque sorte. Et donc, je dirais peut-être le dernier mot sur Ratzinger, c'est l'humilité d'un homme de foi, humble serviteur dans la vigne du Seigneur, ce qu'il avait dit le jour de son élection. Et je crois que c'est la vérité de tout son être.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ce témoignage.
Merci, Marie.
Et puis, je donne rendez-vous à nos auditeurs dans un prochain épisode de ce podcast. Ils ont rencontré Benoît XVI. Merci beaucoup.